Père Jean-Yves Lhomme, bonjour.
Bonjour.
Alors, bienvenue sur Radio Maria. Alors, avant de parler du pays où vous vous trouvez actuellement, qui est Madagascar, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs?
Ah voilà, donc je suis donc le père Jean-Yves Lhomme, missionnaire des missions étrangères de Paris, et je suis à Madagascar depuis exactement le 24 août 1986, donc bientôt 32 ans, et toujours dans le diocèse de Mananzar sur la côte sud-est, à environ 550 kilomètres de la capitale. Voilà.
Alors vous allez.
Alors j'ai.
Oui, allez-y.
Pardon, oui.
Allez-y.
Oui, j'allais dire que bon, j'ai été longtemps, après avoir étudié la langue malgache à Embouchet, 1986-87. Je suis vite arrivé ensuite dans le diocèse de Mananzar et j'ai été, bien évidemment, comme tous mes confrères des pères des missions étrangères de Paris, curé de Brousse. J'ai donc été longtemps en Brousse, à deux endroits pour soutenir des confrères, voire éventuellement aller remplacer un jour parce qu'il prenait de l'âge. Et puis ensuite, à la demande de Monseigneur Xavier Tabao Manzari Manana, l'évêque, deuxième évêque de Mananzar, décédé en 1999, j'ai été à Nochivark, une petite sous-préfecture au nord du diocèse de Mananzar, où Monseigneur Tabao m'avait demandé de fonder un nouveau district. Et là, j'ai été pendant 15 ans curé. Voilà. Entre-temps, Monseigneur Tabao est décédé et Monseigneur José Alfredo Querez de Nobrega, missionnaire déonien, lui-même curé dans le district de, dans le diocèse de Mananzar, est devenu l'évêque. Voilà. Voilà un petit peu mon parcours avant de faire ce que je fais aujourd'hui.
Alors, ce que vous faites aujourd'hui, c'est de vous occuper de la construction d'un hôpital. Alors, pour mieux comprendre la nécessité de la construction de cet hôpital, est-ce que vous pouvez nous parler de Madagascar, de ce qui s'y vit, de la réalité de ce pays?
Ah, c'est bien complexe, parler de Madagascar. Est un petit peu compliqué. Bon, la seule chose que je pourrais dire, c'est que après déjà 32 ans passés ici dans ce pays, bon, c'est un pays attachant, un pays extraordinaire, une population extraordinaire et attachante. Et j'en veux pour preuve que je suis toujours missionnaire à Madagascar, bien évidemment. En 32 ans de présence dans le pays, j'ai bien évidemment était le témoin d'avancées ou de régressions, bien évidemment, hein, et les choses sont ainsi. J'ai été le témoin de nombreux événements sociopolitiques depuis 32 ans. Voilà. Mais je dirais, pour moi, ce qui est essentiel, ce n'est pas tant, le présent est important, surtout quand une grande partie de la population vit encore dans la pauvreté, une grande pauvreté, et je vais en parler, c'est le pourquoi un peu du désir de notre évêque d'avoir un hôpital aussi, hein, alors que c'est pas d'abord la première activité d'une église de construire un hôpital, mais ça on peut en revenir. Alors pour en revenir au pays, nous le savons fort bien, Madagascar est un magnifique pays, un grand pays, hein, où il y a... Alors, une petite précision quand même, c'est que quand je suis arrivé en 1986, il y avait à Madagascar, si je ne me trompe, 12 millions d'habitants. Je crois que 30 ans, un peu plus de 30 ans après, nous sommes plus de 20 millions. Et je lisais quelque chose là-dessus où dans 25 ans, cette population aujourd'hui aura doublé. Voilà. Et quand je réfléchis et que je pense à cela, c'est pour moi une question angoissante. voilà, que quand je vois la sortie des écoles à Mananzar, des milliers d'élèves, d'enfants, je suis toujours inquiet. Et je me pose toujours la question, mais que vont faire un jour ces enfants? Vous voyez, c'est une question, c'est une grosse question, mais je pense néanmoins que c'est possible, tout est possible. 20 millions pour un pays immense qui est dans la plupart des régions magnifiquement arrosé ou qui a une potentialité extraordinaire sur le plan agricole, parce que je suis personnellement, mais je peux me tromper, je suis intimement convaincu que Madagascar a encore et toujours d'abord une vocation agricole. Et il y a des possibilités. D'une part pour nourrir sa population, mais je suis persuadé qu'on pourrait aller bien au-delà, hein, de nourrir une population et d'exporter un certain nombre de choses. Ça, je le crois vraiment, vous voyez. Je pense que c'est peut-être là qu'il nous faudrait nous diriger, investir, réfléchir, etc., etc. Mais je pense que tout d'abord, c'est une question, une volonté politique, et je crois que toutes les forces vives de ce pays se doivent d'y réfléchir et d'y travailler compte tenu de l'avenir qui se profile à l'horizon avec une population en augmentation. Je crois aussi que si la population augmente si rapidement, c'est aussi le fruit de certains programmes qui, je crois, ont été menés à bien. Par exemple, la vaccination, voyez. Je crois que ça également, ça a participé à ce que la population se développe. Voilà en gros, enfin, et rapidement, trop rapidement sans doute, ce que l'on pourrait dire, en tout cas, moi, ce que je pourrais dire à propos de ce magnifique pays qu'est Madagascar.
Alors, comment est né le projet de l'hôpital dont vous vous occupez de la construction?
Ah, c'est une belle histoire dans le fond, et puis oui, et puis voilà, c'est à la fois c'est très simple, et puis je dirais que naturellement l'idée de cet hôpital est arrivée. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, il y avait une association de l'île de la Réunion qui deux fois par an venait à Mananzar pour des missions médico-chirurgical. Et le diocèse de Mananzar, et en particulier son économe, mettait à la disposition de cette association, pour qu'elle soit plus efficace, le peu de temps qu'elle se trouvait là, la logistique du diocèse. Alors des locaux pour ranger le matériel, les médicaments, des véhicules, voire des bateaux, pour permettre d'aller de ramener sur Mananzar des malades qui devaient être opérés. Voilà. Et cette association avait eu le projet, un petit peu utopique d'ailleurs, pourquoi pas, d'avoir son propre bloc chirurgical pour les fois où il venait. Mais en fait, je ne suis pas sûr que ce soit les médecins et chirurgiens de l'association qui avaient eu cette idée, parce que il est clair qu'un médecin ou un chirurgien sait que c'est pas possible, c'est un trop gros investissement pour peu de temps dans le fond. Mais dans cette relation que nous avions avec eux, ce sont eux, et en particulier auprès de notre évêque, Monseigneur Alfredo, qu'ils nous ont aidés à prendre conscience des besoins immenses sur le plan sanitaire et en particulier chirurgical. Ça, et c'est comme ça un petit peu qu'est née l'idée, et avec Monseigneur Alfredo, nous sommes allés les rencontrer chez eux sur l'île de la Réunion, et là, le projet a pris corps en 2004. D'ailleurs, c'est en 2004 que Monseigneur Alfredo m'a demandé si j'acceptais de quitter le district de Nouchivark, où j'ai été curé pendant 15 ans, très heureux là-bas, la vie de brute me convenait tout à fait, et que j'acceptais également de, de, d'élaborer le projet du futur hôpital catholique du diocèse, de le construire, de le gérer et surtout de trouver les financements nécessaires. Alors, en fait, je lui ai demandé un laps de temps de réflexion, qui a été court, 24 heures, et puis au bout de 24 heures, j'ai accepté. J'ai accepté, voilà, parce que... Alors, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Parce qu'à l'époque, il y avait d'autres personnes qui, peut-être, dans le diocèse de Mananzar, auraient pu tout à fait faire ce que je fais aujourd'hui. Monseigneur me l'a demandé à moi. Peut-être avait-il senti que j'étais... particulièrement sensible aux personnes qui souffrent et en particulier aux malades. Peut-être avait-il, il me l'a pas dit, mais peut-être l'a-t-il ressenti. Mais une chose est certaine, c'est que je suis un hospitalier de Notre-Dame de Lourdes et missionnaire depuis 32 ans. Je ne peux plus aller à Lourdes comme je le faisais dans le passé et tous les ans m'occuper des malades. Hein? Et pour moi, d'ailleurs, ça a toujours été quelque part une souffrance. Et souvent, avec humour, de dire, eh bien, d'abord parce que je dis mon acte de consécration à Notre-Dame de Lourdes tous les jours, parce que je suis hospitalier, et puis de me dire aussi que si je ne peux plus aller à Lourdes comme je pourrais le souhaiter et m'occuper des malades comme je le faisais, eh bien, aujourd'hui, de la même manière, dans le fond, de la même manière, eh bien, je reste fidèle à cette consécration à Notre-Dame de Lourdes comme hospitalier. Alors, c'est peut-être un petit peu tout cela, je ne sais pas, que Monseigneur a senti pour me le demander. Enfin, en tout cas, je l'ai accepté en 2004. Et en 2005 jusqu'en 2017, je suis allé sur l'île de la Réunion, où là, j'ai, pendant 2 ans, travaillé à l'élaboration du projet, tout en étant, à la demande de Mgr Aubry, l'évêque de la Réunion, curé d'une petite paroisse dans l'est de l'île de la Réunion. Et avec des amis, bien évidemment, nous avons commencé à élaborer le projet de l'hôpital. Et en 2007, j'ai quitté la Réunion en février pour prendre un peu de congé jusqu'au mois de juin. Et en juillet 2007... Et les travaux ont commencé sur le site de 10 hectares que m'avait donné Monseigneur Alfredo pour construire l'hôpital. Alors, on peut peut-être préciser qu'à l'époque, avec Monseigneur Alfredo, nous avions rencontré le vice-ministre de la Santé de Madagascar, qui nous avait donné l'accord de principe et qui nous avait vivement encouragé. Et Monseigneur Alfredo, de lui remettre une lettre à elle-même et au ministre de la Santé, qui à l'époque était le docteur Robinson, une lettre fort sympathique, où dans le fond, Monseigneur disait que nous n'étions pas là pour nous substituer, bien évidemment, au service de l'État, mais pour apporter notre contribution. Parce que dans la région de Mananzar, bien évidemment, les établissements publics n'y suffisaient pas. Voilà, tout simplement, un petit peu comment ça s'est passé.
Un très beau projet hein, qui est en train de se mettre en place. Donc, l'hôpital est actuellement en cours de construction. Vous avez une idée de l'achèvement et de quand est-ce qu'il sera opérationnel?
Alors, oui, bien sûr, c'est la question qu'on me pose depuis des années. Alors, il faut savoir que pourquoi tant de temps? Alors, la première réponse, pourquoi tant de temps? D'abord parce que Monseigneur m'avait demandé de chercher des fonds. Les fonds sont uniquement des dons privés, des donateurs, d'heureux, de généreux donateurs. Généreux donateurs, vraiment, puisque jusqu'à ce jour... Et j'en suis gré à la divine providence en laquelle j'ai une confiance indéfectible. Eh bien, je n'ai pas eu de problème particulier à ce niveau-là et c'est heureux. Parce que, bien évidemment, construire un hôpital de qualité à Madagascar, loin de la capitale, avec, si vous me permettez de le dire ainsi, des moyens du bord, c'est-à-dire sans engin, hein, eh bien, ce n'est pas simple. Et j'en veux pour preuve, c'est que nous avions, Monseigneur m'avait donné un terrain de 10 hectares où il y avait 6 collines. Et il a fallu défricher, il a fallu araser les collines pour construire, et tout cela s'est fait à la main. Brouettes, bêches, en gade, et comme on dit ici, des bêches, tout à la main. Déblayer pour remblayer ailleurs, etc. Tout cela a pris du temps. Et puis, à Madagascar, nous sommes dans un pays où il y a de fortes pluies et où il y a des cyclones. Bien évidemment, nous risquions, hein, les glissements de terrain. Alors, il a fallu construire des murs de soutènement, hein, en pierre de granit. Hein. Il y en a aujourd'hui 724,50 m. Il faut le faire, hein, c'est assez complexe. Hein. Voilà, c'est un petit peu pourquoi le projet semble avoir pris du retard, mais il n'a pas pris du retard. C'est un choix que nous avions fait de permettre à des familles de vivre, hein, en travaillant sur le site. Hein. Parce que je dis souvent avec humour que faire venir des engins à Tananarive, ça m'aurait coûté cher, que s'ils avaient été en panne, ça m'aurait coûté aussi très cher, que effectivement des engins poussent la terre un peu plus loin, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors que là, nous arrivons à la fin du projet, et je me rends compte que nous avons pu gérer notre terre au jour le jour, l'enlever là pour la mettre là. Et c'est très bien. C'est très bien parce que ça fait un ensemble harmonieux et magnifique. Alors, bien évidemment, je dis souvent, c'est un petit peu un hôpital à la Lambaréné du docteur Schweitzer. Pourquoi? Parce que c'est un hôpital pavillonnaire. Il n'y a pas de bâtiment à étage. Pourquoi? Parce que qui dit bâtiment à étage dit ascenseur, etc. Et puis s'il n'y avait pas eu d'ascenseur mais des étages, il aurait fallu faire des rampes extérieures qui auraient pris beaucoup de terrain que nous n'avons pas. Voilà, donc c'est un hôpital plutôt de type pavillonnaire et aujourd'hui, il y a 13 bâtiments sur le site. Des pavillons, pour répondre à la question, nous pensons, je l'espère vivement d'ailleurs, que l'hôpital sera terminé à la fin de l'année. Je le crois vraiment puisque là, nous sommes en train de travailler sur ce qu'on appelle le plateau technique, où il y a 2 blocs opératoires, une salle de réanimation et tout ce qui est nécessaire autour des blocs opératoires. Donc, nous pensons que ça pourrait être terminé cette année. Enfin, en tout cas, c'est en bonne voie. Si ce n'était pas terminé cette année, ça le serait dans le premier, sûrement, trimestre de l'année prochaine. Voilà. Nous travaillons depuis 2 ans aux finitions, d'une part, c'est long. Et puis, au mois de juillet, nous allons commencer à aménager les intérieurs des différents pavillons. Alors, il y a peut-être aussi une particularité à souligner qui me semble importante. L'hôpital est d'abord destiné pour les plus pauvres, pour les gens qui n'ont rien. Alors, bien évidemment, dans les hôpitaux publics, un hôpital public, ce n'est pas très cher, mais il y a des personnes qui n'ont même pas la somme qui n'est pas importante, n'ont même pas ça. Mais on peut, dans un hôpital public, en tout cas à Madanza, mais je crois que c'est partout pareil dans le pays, on peut être soigné gratuitement avec un certificat d'indigence venant du maire. Voilà. L'hôpital Sainte-Anne, que nous construisons, est d'abord destiné à ces personnes les plus démunies, les plus pauvres. Et bien évidemment, elles n'ont rien, mais elles seront là, elles seront soignées, comme quelqu'un qui pourrait avoir de l'argent et qui souhaiterait être soigné chez nous, bien évidemment. Mais une particularité, c'est que un malade pauvre, puisque vous savez qu'à Madagascar, dans les hôpitaux publics, c'est la famille qui apporte la nourriture à manger à son malade. Et avec mon évêque, de se dire, mais un malade pauvre, donc une famille pauvre, qu'est-ce qu'une famille pauvre peut apporter comme repas à son malade pauvre? Alors nous avons décidé avec Monseigneur de nourrir les malades. De nourrir les malades parce que d'abord il y a 10 hectares, il y a des arbres fruités que j'ai plantés il y a déjà une dizaine d'années qui produisent d'ailleurs, il y a 4 hectares de rizières Et donc, il y aura tout un travail que pourra faire la famille accompagnatrice du malade. Voyez ? Et ce n'est pas une question de rapport montant de la facture et travail fourni qui est important. Ce n'est pas ça qui est important philosophiquement et surtout spirituellement. C'est la bonne volonté que mettra la femme, que mettra la famille d'un malade pauvre à travailler, à nous aider pour son malade qui sera magnifiquement et comme tout le monde pris en charge. C'est ça qui est important, vous voyez. Alors tout ça, bien sûr, il faudra un petit peu de temps, je crois, pour le mettre en place, mais j'ai bon espoir que ça fonctionnera comme on le souhaite. Alors une autre particularité, nous sommes à Madagascar et lorsqu'un malade arrive à l'hôpital, il est amené bien évidemment par de nombreuses personnes, soit de la famille, soit du village. Alors l'hôpital bien évidemment ne pourra pas accueillir tout le monde, c'est-à-dire que le soir eh ben, tout le monde repartira sur la ville de Mananzar à 5 km. Mais j'ai bonne confiance pour que autour de l'hôpital se construisent ce qu'on appelle des hôtels gâches, c'est-à-dire des petits établissements où les gens pourront manger et dormir. Mais nous n'oublions pas que nous sommes à Madagascar et que culturellement, c'est important que le malade ne soit pas complètement seul. Alors nous avons décidé avec Monseigneur que nous accueillerons également le soir, la nuit, une personne de la famille qui sera là, qui dormira là, que nous nourrirons même hein, pour que le malade ne soit pas seul. Vous voyez ? Je prends souvent l'exemple, hein, c'est que l'île de la Réunion, bien évidemment, qui est un département français, j'ai visité il n'y a pas très longtemps un hôpital nouvellement construit et j'étais un petit peu frappé par une chose, c'est-à-dire que, vous savez, souvent en France, c'est mon pays, je suis français, on aime bien avoir une chambre seule, être tout seul, voilà, ou au moins deux lits, mais guère plus. C'est plus comme autrefois où on parlait de chambres communes où il y avait beaucoup de malades. Et tous mes amis, parce que ça, il faudrait que j'en parle aussi des amis de l'hôpital, sont surpris que nos chambres sont de 4, 6, 4 ou 2 lits, ou 2 seuls lits. Eh bien, je dis tout simplement, c'est parce qu'un malade, il ne veut pas être tout seul. Et à La Réunion, quand je visitais cet hôpital, les portes des chambres, seules ou à 2 lits, étaient toujours ouvertes sur le couloir pour que le malade puisse voir les gens passer. On n'aime pas être seul. Alors voilà, ça explique pourquoi nos chambres sont ces de 6, 4 ou 2 lits. Je voudrais aussi parler alors de ce que j'appelle le miracle d'HSA. HSA veut dire Hôpital Sainte-Anne. Parce que ce projet, au-delà de ma personne, c'est moi aujourd'hui, ça pourrait être quelqu'un d'autre demain, cet hôpital, ce futur Hôpital Sainte-Anne, rencontre beaucoup, beaucoup d'amitié et de solidarité. La preuve, c'est que financièrement, j'arrive à le construire. Et puis surtout, aujourd'hui, depuis plus de deux ans, j'ai de nombreux amis qui viennent de France, de La Réunion, nous prêter main forte pour des corps de métier que nous ne trouvons pas sur place. Vous voyez, par exemple, à ces jours-ci, j'ai un électricien d'un département de France, du Lot-et-Garonne, Serge, qui fait l'électricité, qui pose des voliges, qui fait de la plomberie également. J'ai un carreleur et un électricien qui sont venus de La Réunion. Et j'ai une jeune fille, non pas française, mais belge, dont la profession est d'être peintre en bâtiment et qui est là pour 5 mois et qui peint l'hôpital avec l'un de mes ouvriers malgaches, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, me disait-elle, n'a rien à apprendre d'elle et émerveillé par la qualité de son travail, voyez. Tout ceci pour dire qu'on peut faire des choses extraordinaires ici. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Père Jean-Yves Lhomme. Donc, notre émission touche déjà à sa fin. Je pense que nous pourrions encore discuter des heures de ce pays et de votre très beau projet.
Tout à fait, oui. Ah oui, passionné, passionnément.
Alors, je pense que peut-être dans quelques mois, nous pourrions refaire une émission pour que vous nous disiez où en est le projet, puis peut-être avec de nouvelles histoires à nous raconter autour de ce projet.
Ah, très volontiers, très volontiers. Surtout lorsque l'hôpital rentrera en fonction et que nous aurons soigné les premiers malades. Ah oui, ce serait formidable de le faire et de donner des nouvelles aux auditeurs, oui, volontiers.
Eh bien, écoutez, on garde ça en mémoire et puis à très bientôt alors. Merci beaucoup.
À très bientôt. Merci. Au revoir.
Au revoir.